Il y a quelque temps, j'ai commencé donc l'évangile de Matthieu et je voudrais terminer ce temps, en tout cas cet évangile. Il me reste deux ou trois semaines avant la reprise de l'Église en septembre, où j'aborderai d'autres sujets, en tout cas que l'évangile de Matthieu. On arrive pratiquement à la fin. Et donc je voudrais qu'on regarde ensemble, terminer en tout cas cette dernière section que nous allons regarder. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire aujourd'hui, il va y avoir plusieurs exhortations en tout cas pour terminer ce temps, mais aujourd'hui je voudrais qu'on aborde le procès de Jésus. Alors il y a des chants qu'on chante, hein. Cette croix me sera toujours chère. Nous avons aussi d'autres chants que nous mettons en avant. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la passion du Christ. Alors, c'est vrai que c'est pas la période, on va dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a une période particulière pour parler de la passion de Jésus-Christ? Après tout, vous connaissez le film, peut-être, vous avez déjà vu en 2004 le film de Mel Gibson. Il n'a pas attendu une période, un temps particulier pour faire ce film. Et c'est le temps, en tout cas, que nous avons ici, dans la dernière section, donc le procès de Jésus. C'est juste après son arrestation. Et nous allons voir que son procès est fait d'une manière pas très jolie. Et en le lisant, pardon, en le relisant, je me suis aperçu qu'il y a quatre personnages qui sont impliqués dans ce procès, et nous allons voir ensemble ces quatre personnages que Matthieu, en tout cas, va mettre en avant. Dans d'autres évangiles, il va y avoir d'autres choses qui vont être mises en avant, mais Matthieu va mettre quatre personnages en avant, et on va essayer de regarder un petit peu comment ces quatre personnages vont se manifester au cours du procès de Jésus. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, et je vais lire à partir du verset 57. Évangile de Matthieu, chapitre 26, et je vais lire à partir du verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoins contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, afin il en vint deux qu'ils dirent, celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure, par le nom vivant, par le Dieu vivant, que nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Le plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, un autre serviteur le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu étais aussi de ces gens-là, avec ton langage. Tu fais reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint des paroles que Jésus avait dites, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois, et étant sorti, il pleura amèrement. » Fin de la première partie, nous lirons les autres versets par la suite. Alors, comme je voulais annoncer dès le début, nous allons voir un petit peu en détail le procès de Jésus. Nous verrons la prochaine fois la crucifixion et ensuite la finition du chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, de la dernière section en tout cas que nous allons regarder ensemble, c'est la résurrection de Jésus. Alors je vous ai parlé de quatre personnages principaux en tout cas dans ce passage. Il y a là Caïphe, ça c'est le premier personnage. Nous allons voir Pierre, le deuxième personnage. Ensuite, nous allons voir Judas, le troisième personnage. Et le dernier, c'est le dernier personnage dans ce passage, c'est Pilate. C'est quatre personnages que Matthieu va mettre en avant. Et on va regarder un petit peu dans le détail qui sont ces quatre personnages. Alors, bien sûr que certains qui nous viennent à l'esprit de suite, oui, Pierre, on connaît, Judas, on connaît, mais Caïphe et Pilate, est-ce qu'on le connaît réellement? Quand on regarde un petit peu dans son détail, apparemment, c'était des personnages qui étaient très connus. Je dirais, pour parler moderne, c'était des ministres du culte, mais vraiment très connus à l'époque. Ils avaient des relations avec l'État. Que ce soit Anne ou Caïphe ou que ce soit bien d'autres personnes, ils avaient des relations intimes avec les forces qu'il y avait là, les Romains, à l'époque. C'était en tout cas l'endroit où tout se parlait, tout se disait. Et les Romains, pour essayer de calmer un petit peu le peuple, eh bien, ils faisaient souvent référence à ces chefs religieux qui étaient là. Et qu'il disait souvent, eh bien, si on coopère avec les Romains, eh bien, on aura sûrement des aides par la suite. Et c'est ce qui s'est passé, puisque les Romains avaient l'emprise, en tout cas, sur la Palestine, sur la Galilée de l'époque, et les chefs religieux, eux, avaient leur petit business, je dirais, de l'époque. Anne détenait toujours le vrai pouvoir, c'est-à-dire sur les... C'était le boss, c'était le parrain, pour appeler ça littéralement, sur le temple. Tout passait par lui, c'est-à-dire tout était géré par lui. Tout ce qui se passait dans le temple, Anne était au courant. Et Caïphe, qui lui venait par la suite, puisqu'il était le souverain sacrificateur là, eh bien, lui détenait un certain pouvoir pendant un temps bien déterminé, que la parole de Dieu nous dit... Alors ces hommes-là étaient bien sûr des personnes qui étaient célèbres, qui avaient des prises de position, mais quand on regarde dans l'Évangile, ces hommes avaient déjà pris la résolution d'éliminer Jésus. Il suffit de regarder dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, où là dans ce passage, on nous donne quelques détails pour vous montrer que ces hommes avaient déjà bien résolu dans leur cœur de tuer, d'éliminer le Seigneur. Vous avez ce passage, Jean chapitre 11, verset 47 à 54, où il nous est dit: alors les souverains les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront à lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, le revoilà, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là où il demeurait avec ses disciples. Le Sanhédrin de l'époque avait déjà résolu dans leur cœur d'éliminer Jésus. Et Jean nous l'explique la raison. Tout simplement parce qu'ils avaient peur de perdre leur intérêt. Jésus faisait des miracles et le peuple était en train de regarder cet homme qui venait là, en Palestine, faire des choses extraordinaires, et cela détournait les regards du Sanhédrin, de ses chefs religieux de l'époque, et ils avaient déjà résolu dans leur cœur d'éliminer Jésus déjà depuis très longtemps. Ils attendaient, je dirais, le moment favorable pour pouvoir prendre la résolution pour éliminer Jésus. Ils attendaient la faille, le moment opportun pour pouvoir éliminer Jésus. Alors je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais ce temps a été prophétisé bien sûr par Dieu, et ce que je trouve incroyable pendant ce moment, c'est que la prophétie de Dieu, dans Ésaïe, nous dit que Jésus a peu manifesté, en tout cas, sa manière de pouvoir s'exprimer. Il aurait pu dire à un moment donné: mais je suis le Sauveur, je suis celui qui est venu depuis tout le temps. Et pourtant, ils ne l'ont pas accepté parce que leur cœur était endurci. Mais la raison, elle est toute simple. C'est parce que le Seigneur est venu dans un but bien précis, et dans sa souveraineté, Dieu a accepté certaines méchancetés du cœur de ces personnes-là pour se manifester là dans cette période. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alors vous avez constaté dans le texte qu'il a quand même ouvert la bouche. Il s'est manifesté, Jésus, à un moment donné. Mais malgré le fait qu'il se manifeste, ils avaient déjà résolu dans leur cœur d'éliminer Jésus déjà depuis très longtemps. Et nous voyons que ce moment est juste un moment, je dirais, où Jésus doit passer. Et malgré le fait qu'il y ait deux témoins, de faux témoins, eh bien, Dieu va aller jusqu'au bout, en tout cas, par rapport à ce que Jésus devait vivre pendant cette période. Deuxième personnage, Pierre. Ah, Pierre, le bienheureux Pierre, qui aime bien suivre Jésus, de loin, nous dit le texte, de loin. Il veut voir ce qu'il se passe. Il veut voir ce que Jésus a dit là, dans tout ce que Jésus a dit, comment ça va se finir, cette histoire. Jésus lui avait dit que dans ce moment-là, tu vas me renier. Dans ce moment-là, tu dois fuir. Au lieu de ça, il ne va pas l'écouter. L'évangile de Jean, chapitre 18, verset 15, nous dit qu'il y a un deuxième disciple. On ne nous donne pas le nom de ce deuxième disciple, mais apparemment il connaissait le Sanhédrin et ça lui a donné la possibilité de rentrer dans le Sanhédrin parce qu'il connaissait quelques personnages. À mon avis, Jésus avait averti Pierre, fuis, fuis, parce que si tu fuis pas, tu vas me renier, et je te le dis, avant que le coq chante, tu vas désobéir, tu vas me renier dans un moment de ton existence. Alors c'était un moment difficile, un moment humiliant, mais Pierre avait besoin de passer par là. Et quand on regarde son histoire, eh bien on s'aperçoit que Pierre a souvent désobéi, mais à quel prix aussi de sa désobéissance à un moment donné. Quelques analyses par rapport à sa désobéissance. Le refus de croire à toute la révélation de Jésus. Je pense qu'il avait accepté certaines choses, mais pas dans sa totalité. Ben non, tu ne vas pas mourir. Tu es notre sauveur. Tu ne peux pas aller sur la croix. Tu ne vas pas me faire ça. Je veux que tu restes avec nous tout le temps. Je veux que tu manifestes ta présence tout le temps avec nous. Tu ne vas pas partir, ce n'est pas possible. Et si vous connaissez les évangiles, Matthieu chapitre 16 va lui dire, Jésus va même me le reprendre, parce que Pierre ne voulait pas qu'il aille sur la croix. Et Jésus est obligé de le reprendre. Jésus disait simplement, ben voilà toute la vérité, et la croix était nécessaire pour l'humanité. Pierre refusait cela. Pierre refusait de le croire. Une certaine trop grande confiance de soi-même. Vous savez, quand on regarde Pierre dans son ensemble, il a manifesté vraiment pas mal de confiance. Je ne sais pas vous, mais quand Jésus lui a dit « Viens et marche dans l'eau », Pierre s'est manifesté, ça a été la deuxième personne à marcher dans l'eau. Souvent on oublie cela, mais Jésus a marché sur l'eau, mais Pierre aussi a marché pendant un temps sur l'eau. Il avait quand même une certaine grande confiance, enfin moi je ne sais pas vous, si vous avez déjà fait du bateau, ou si vous vous êtes déjà essayé de sortir du bateau. Personnellement, j'ai déjà fait l'expérience. On coule, on ne marche pas sur l'eau. On était dans le sud de la France, on a visité le lac Sainte-Croix, et certains s'amusaient, vous savez, sur les fameux bateaux à rames que certains avaient. Eh bien, j'ai vu personne dans le sud marcher sur les eaux. Personne. À chaque fois qu'il y en avait un qui sautait, à chaque fois il plongeait. Et Pierre a fait la même expérience que cela. Oui, une trop grande confiance en soi-même. Troisième chose, peut-être une fatigue. Il n'avait pas dormi de toute la nuit, je tiens quand même à vous le signaler. Jésus a été arrêté pendant la nuit dans le jardin. Il avait sûrement une fatigue intérieure qui se manifestait en tout cas à partir de ce moment-là. Il avait l'habitude de travailler la nuit, je tiens quand même à vous le signaler, c'était un pêcheur. Il travaillait la nuit bien souvent, mais vous savez, quand on accumule les fatigues, on fait beaucoup d'erreurs. Et combien de fois, quand on est fatigué, on fait beaucoup d'erreurs, même verbales. Moi, si vous m'entendez parler quand je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Je rigole bien souvent parce que je suis fatigué et je dis n'importe quoi. Je me dis dans ma tête, quand je suis fatigué et que je dis n'importe quoi, je me dis souvent, il est temps d'aller au lit, maintenant, d'aller dormir. Et c'est le cas de Pierre, sûrement sa fatigue lui a fait oublier l'essentiel là, dans cette situation. Et la dernière, c'est la crainte des hommes qui l'empêcha de s'identifier à Jésus-Christ. Sûrement, il a eu peur de ces personnes qui étaient là devant lui, en tout cas, les servants et les servantes qui lui posaient toutes sortes de questions qui l'ont passé sur le grill, comme on dit chez nous, vous savez, on passe la personne sur le grill avec certaines questions. Alors, aussitôt le coq chanta, nous dit le texte, verset 74, et Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Le coq qui chanta. On a juste à côté de la maison un voisin qui a un poulailler. Et dans ce poulailler, le voisin a mis un coq. Quand j'entends le coq chanter, j'ai envie de faire un coq au vin. Parce qu'il y a des fois où il chante, mais pas à la bonne heure. Il ne chante pas au bon moment. Là, le coq a chanté au bon moment pour Pierre. Il avait besoin de se souvenir que Jésus lui avait dit les paroles qu'il lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois. » Les paroles de Jésus aussi. Et je trouve que bien souvent, quand nous, dans nos vies, on entend le coq chanter, alors ne faites pas comme moi, ne pensez pas qu'il faut faire un coq au vin à chaque fois que vous entendez un coq, mais parfois ce sont les paroles de Jésus que nous entendons. Et combien de fois nous avons entendu les paroles de Jésus? Combien de fois nous avons entendu ce que Jésus a à nous dire au travers de sa parole? Et on l'a laissé continuer à chanter sans forcément prendre analyse de ce que le Seigneur a à nous dire. Matthieu n'en parle pas, mais Luc en parle. Jésus a manifesté aussi un regard vis-à-vis de Pierre. Luc chapitre 22, verset 61. C'est le regard qui tue. Hein? Là, c'est le point final. Mais Pierre avait besoin d'entendre le coq pour se souvenir des paroles de Jésus et en même temps d'avoir ce regard de la part de Jésus en disant « Je t'avais averti. Je t'avais averti. Si tu avais obéi, tu aurais dû fuir, tu aurais dû partir pour un temps, mais tu n'as pas voulu entendre, tu n'as pas voulu écouter, tu as voulu faire à ta propre tête et aujourd'hui tu vas te repentir amèrement, comme le texte nous le dit. Alors, on s'arrête souvent sur Pierre pour le fait qu'il a renié Jésus. Mais combien de fois nous faisons pareil dans nos vies? Combien de fois nous entendons les paroles de Jésus et on les oublie? Il ne faut pas un seul coq. Des fois, il en faut 10 de coqs pour nous rappeler une épreuve, une situation difficile dans nos vies, pour nous rappeler que Jésus est là, c'est vrai, mais il a besoin parfois de nous remettre en place. Et nous avons besoin parfois d'entendre ces paroles revenir et revenir dans notre tête. Tu n'es pas à ta place là. Tu es en train de faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu es en train d'agir comme moi, personnellement, je n'agirai pas dans telle ou telle situation. Troisième personnage, c'est Judas. Matthieu chapitre 27. Et les versets 1 à 10. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après avoir lié et l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les 30 pièces dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs le ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang ». Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour le sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été écrit, annoncé par Jésus le prophète, Jérémie, le prophète, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de ce qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Alors voilà un troisième personnage qui arrive au cours de ce procès, c'est les remords de Jésus. Je tiens quand même à faire la différence entre une repentance et des remords. Il y a complètement jour et la nuit. Qui peut me dire ce que le mot repentance signifie réellement dans la Bible? Qui peut me dire cette affaire de repentance? C'est-à-dire que quand une personne vient à Jésus et qu'elle prend la décision de se repentir, qu'est-ce qu'elle manifeste réellement dans sa vie? Le texte, juste vous mettre sur la voie, le texte dit qu'il faut faire un demi-tour. C'est ça le mot repentance. Le mot remords. À votre avis, est-ce que Judas a fait demi-tour? Pas du tout, hein. Et c'est ça la différence. Judas a regretté son action. C'est quand même incroyable de voir autant d'amour, autant de manifestations de l'amour de Jésus pendant une période de son existence et arriver à un point où Judas a simplement des remords, a regretté ce qu'il avait fait. C'est une mauvaise fin de la part de cet homme. Actes chapitre 1er nous dit que son cadavre est resté pendant plusieurs moments avant qu'on le découvre. C'est Pierre qui le dit dans Actes chapitre 1er, mais c'est pour rappeler que ce personnage a quand même est passé dans la vie de Jésus pendant 3 années et il a eu simplement des remords. Voyez-vous, je me dis souvent, combien de fois on entend les vérités bibliques et au lieu de se repentir, littéralement, de changer d'attitude ou de changer de direction, c'est de venir à Jésus et de se repentir, de se demander pardon et de dire « voilà, je veux marcher en nouveauté de vie ». Combien de personnes ne vont plus à l'église parce qu'elles ne veulent pas se repentir, parce qu'elles ne veulent pas changer leur manière de vivre? C'est sa faute si je suis comme cela. C'est de ta faute si je suis dans cette situation. Mais le Seigneur ne demande pas d'accuser qui que ce soit. Il demande de te repentir. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est triste de voir que certaines personnes n'ont que des remords quand ils voient l'action de Jésus. Et c'est le cas pour Judas. Il n'a eu que des remords. Il n'a eu que des regrets. Il n'était pas le sauveur que j'attendais. Moi, je voulais un sauveur sur un tapis volant, comme Aladdin. Alors là, ça aurait été un sauveur vraiment merveilleux. Certains attendent un sauveur avec une Cadillac. Aujourd'hui, si vous parlez avec certaines personnes vous disent « Moi, si je veux croire à un sauveur, il faut qu'il soit le plus riche de la terre. Alors je croirai en lui. Je veux le voir avec une Cadillac. » Ça marque, hein, une Cadillac. On en a vu une en Suisse quand on a visité les Suisses, les Eric Fuchs. On est allé promener autour d'un lac, au lac Léman, et là, plusieurs personnes s'agglutinaient et ils payaient cher. Alors, je ne me souviens plus exactement le montant, mais ils payaient cher pour entrer, vous savez, dans ces grosses voitures luxueuses qui existent aujourd'hui, qui mesurent la grandeur d'un bus. Hein, ces grosses voitures luxueuses où vous avez le bar à l'intérieur, vous avez la discothèque à l'intérieur, vous avez la sono à l'intérieur, et des foules de personnes s'agglutinaient pour rentrer dans cette voiture. Personnellement, je ne me suis pas agglutiné. J'ai regardé ces personnes, j'ai même pris en photo la voiture. Je l'ai dans mon téléphone, c'est vrai qu'elle est vraiment chouette. Dans mes rêves les plus fous, je me suis dit peut-être qu'un jour je l'aurai devant ma maison. Mais peut-être qu'un jour je l'aurai devant la maison. Vous savez, beaucoup de personnes dans cette société sont comme Judas, manifestent simplement des remords. Et leur vie sont des vies comme Judas. Ils voient l'amour de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu. Il a vu la bonté de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Malgré ça, leur vie continue à rester leur vie. Et ils oublient, je dirais, ce qui était essentiel, pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Jésus devait s'arrêter à un moment donné de vivre pour nos péchés, et l'humanité, malheureusement, ne comprend pas cela. Quatrième personnage, Pilate. On va regarder ce quatrième personnage. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea. Et en ce terme, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien à l'accusation des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Alors, si vous connaissez, bien sûr, ce sont des textes que nous avons l'habitude de lire, mais c'est juste un rappel. La condamnation du Sanhédrin, c'était le blasphème, parce que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. Ici, les Sanhédrins veulent apporter Jésus auprès de Pilate, parce qu'il veut condamner Jésus, mais dans le sens politique. Vous avez ce passage de Luc, chapitre 23, verset 10, où ils disent, à un moment donné, Jésus est venu faire la révolution. C'est un révolutionnaire. Il fait des miracles, il fait des choses incroyables. Il fait tourner les yeux du peuple. En réalité, eh bien, il voulait l'accuser en disant, ben voilà, là aussi tu peux l'accuser dans le sens politique. Mais vous connaissez l'histoire, au verset 19, il nous est dit que sa femme est tourmentée par un rêve. Et il vient voir Pilate, elle vient voir Pilate, elle va le déranger dans son procès en lui disant « Tu devrais rien faire sur cet homme. J'ai été tourmenté durant cette nuit, c'est un homme juste, tu devrais rien faire sur lui. » Il n'a pas du tout écouté ni sa femme, il n'a pas écouté, il a écouté personne, il a écouté son propre cœur. Et la Bible nous dit qu'il a condamné Jésus sans avoir des preuves, sans quoi que ce soit. Il a préféré la facilité à la justice. Il a cherché la faveur des hommes plutôt que celle de Dieu. Le texte nous dit un petit peu plus loin qu'il va même libérer Barnabas, donc quelqu'un qui était un voleur. Et donc Pilate va être celui qui va être retenu comme le fait qu'il a accusé Jésus injustement par la pression de ces hommes politiques de l'époque qui faisaient la pluie et le beau temps apparemment. Mais Pilate a été pourtant averti plusieurs fois et malgré ça, il a pris une position qui le marque aujourd'hui puisque quand on parle de Pilate, c'est celui qui a crucifié Jésus. Quatre personnages dans le procès de Jésus. Pilate savait ce qui était juste. Il a refusé d'accepter ce qui était juste. Il a voulu satisfaire la foule. Mais vous savez, c'est exactement le même procédé que beaucoup de personnes aujourd'hui manifestent dans notre société. On veut satisfaire la foule. On veut faire plaisir à la foule. La foule demande Barnabas, eh bien on va donner Barnabas. On ne va pas libérer quelqu'un de juste. Hein. On fait le jeu du peuple. Le peuple a dit crucifier, mais c'était injuste de le crucifier. Eh bien, le peuple a été entendu. En France, on aime bien manifester ce genre de choses. Même si c'est parfois injuste, on aime bien sortir pour se manifester publiquement. L'État a donné aux infirmiers, et c'est juste, hein, 1500 euros. Quelques jours après, les infirmiers sont sortis à l'extérieur pour demander une augmentation encore davantage. Le peuple français est vraiment difficile. Hein. Si vous comptez ce que c'est la valeur de 1500 euros, c'est un peu plus d'un 13e mois. C'est quand même pas mal. Qui ici-bas, qui dans cette pièce, ne dirait pas « J'aimerais bien avoir 1500 euros d'augmentation annuelle. » Non, non, pas assez. Pas suffisant. Alors on va sortir, on va crier, on va demander davantage. Alors je ne sais pas s'ils auront davantage. À mes yeux, ils méritent davantage. Hein. Je tiens quand même à vous le signaler. Hein. À mes yeux, ils méritent davantage. Hein. Mais c'est le cœur humain qui est comme ça. Vous avez beau dire, on va te donner tant, on ne s'en contente pas, on veut davantage, on veut plus. Eh bien, c'est ce que Pilate a fait. Il a satisfait la foule. Premier enseignement. Est-ce que nous faisons comme Pilate parfois? Est-ce que nous faisons comme la foule? La foule crie. Ouais, mais tu dois manifester l'amour. Mais la foule crie, non, il ne faut pas manifester l'amour. Mais c'est idiot d'aller à l'église. C'est nul, pourquoi tu vas à l'église? Mais c'est complètement bidon. La Bible nous dit, vivre la communion fraternelle, c'est biblique. C'est un temps de louange, un temps de bénédiction, un temps... Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais ce matin, quand vous avez chanté « À qui il est beau de voir des frères », je ne sais pas si ça vous travaille dans votre esprit. Moi, je me suis réjoui de voir des frères, hein, même s'ils sont tous masqués. Même si on a l'impression qu'ils vont tous cambrioler une banque à la fin du culte. Mais c'est quand même beau de voir des frères. J'espère vite fait que cette histoire de masque va partir, parce que sinon à chaque fois j'en ferai une tous les dimanches avec cette affaire. Mais est-ce que vous le pensez sincèrement? Ou est-ce que vous écoutez la foule? La foule, mais c'est nul de voir des frères. Mais qu'est-ce que tu vas faire le dimanche matin au culte? Moi je reste dans mon lit. C'est superbe le lit. Je prends mon vélo. Je vais jouer un peu au tiercé. Je vais jouer au loto. Ça, c'est la vie. Je vais faire 8000 kilomètres. J'ai un peu d'argent, donc. Je vais faire 8000 kilomètres pour aller voir un coucher de soleil. Mais tu peux en avoir auprès de ta maison, le coucher de soleil. Il n'y a pas besoin de faire 8000 kilomètres pour aller voir un coucher de soleil. Les compromis. Vous savez, on est les spécialistes des compromis dans notre société. Et même parfois dans notre couple, on est des spécialistes des compromis. Dieu veut que nous soyons des personnes justes, comme lui le veut. Judas, qui céda à Satan par son péché, il aurait pu voir à un moment donné Jésus. Pendant 3 années, il a vécu avec Jésus. Pendant 3 années. Il aurait pu dire à celui qui gardait la bourse, écoute, j'ai un petit problème avec toi. J'aurais aimé que tu sois pas né dans une étable à Bethléem. J'aurais voulu que tu viennes avec un tapis volant comme Aladdin. Moi, c'est ça, j'attendais ça d'un sauveur. Il aurait pu aller voir Jésus. Pendant 3 années, il n'a pas pris le temps de discuter avec Jésus. Et vous savez ce qu'il a fait dans sa vie? Il a accumulé amertume sur amertume. Il a fait ce qu'on appelle un millefeuille. Et à un moment donné, eh bien, il a senti que des remords. Et voyez-vous, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Hein. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Hein. Que toute racine d'amertume s'éloigne de notre vie. Pierre, lui, il a cédé à la chair. Jésus lui a demandé de fuir. Au lieu de cela, il a suivi Jésus de loin. Ah, s'il aurait pu être à côté de Jésus, ça aurait été complètement différent. Mais là, non, de loin, on a suivi Jésus. Mais Jésus lui a dit simplement, fuis pendant un temps. Pardon. Éloigne-toi pendant un temps. Il a désobéi tout simplement à la parole de Dieu. Combien de fois nous faisons exactement la même chose? Nous désobéissons littéralement à la parole de Dieu. On sait ce que le Seigneur a à nous dire au travers de la Bible. On connaît la Bible. Beaucoup d'entre vous connaissent les passages de la Bible et savent ce qu'ils doivent faire. Et je pense que parfois, on fait comme Pierre, on préfère désobéir à la parole du Seigneur. Et puis le troisième, c'est Pilate, qui choisit le chemin de la facilité. J'oubliais, Caïphe, le religieux d'apparence. Il y en a aujourd'hui, vous savez, des gens comme ça, dans notre société. Des gens qui disent qu'ils sont spirituels, mais dans le fond, leur vie n'est pas mieux qu'un païen. Et je pèse mes mots quand je dis cela. Leur vie n'est pas mieux qu'un païen, parfois. Alors, laissez-moi terminer ce temps, ce matin, par 2 passages... trouvé, bien sûr, dans la parole de Dieu. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Jésus est lumière. Jésus n'est pas ténèbre. Et notre vie doit être une vie de lumière et elle ne doit pas être une vie de ténèbres. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. La marche dans la lumière est le pardon des péchés. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, durant la semaine, ne marchons pas comme Pilate, ne marchons pas comme Pierre, ne marchons pas comme Judas, ou ne marchons pas comme Caïphe, mais marchons comme des chrétiens de lumière. Amen. Amen. Amen.